Livre 2, chapitre 20. Des tas d'histoires. Monsieur Bruno avait pris à la main la brochure. Il en parcourait le titre naïf en rêvant. Un instant, il se recueillit et sa main robuste pressa son front comme pour en exprimer la pensée. Il y a là un point de départ surprenant, poignant et vrai, ce qui ne gâte rien, prononça-t-il avec lenteur. Ceci est de l'histoire. Quoique ce ne soit pas de l'histoire intelligente, car l'auteur, pour écrire, s'est mis au même point de vue que les juges pour juger. Soyez tranquille, monsieur Roland, je ne dirai rien contre votre père. Oh, répliqua Étienne, ne vous gênez pas, il s'agit du drame. Je regarde votre père comme un digne magistrat, et j'admets que le vôtre fit son devoir, monsieur Schwartz. Je ne vous laisserai pas dire le contraire, interrompit Maurice. Le Normand s'inclina avec gravité. Ce qui n'empêche pas, reprit-il en élevant la voix, que cet André Ménotte était un innocent et que vous allez avoir en lui un premier rôle haut comme la colonne Vendôme. Écoutez-moi bien, le drame n'attend pas la représentation, il se joue. Nous le jouons, et je suis ici pour que vous sachiez ce qu'il faut savoir pour ne pas manquer vos entrées. Y êtes-vous ? Nous y sommes, répondirent les deux jeunes gens pareillement attentifs. Un fait qui desservit beaucoup André Ménotte et sa femme lors du procès, commença M. Bruno, ce fut leur qualité d'étranger, car on regarde presque partout en France les Corses comme des étrangers. Voici pourquoi la belle Julie et son mari, natifs de l'île de Corse tous les deux, avaient quitté leur patrie. Là-bas, de l'autre côté de Sartène, c'est un beau pays à brigands. J'entends comme décor, car, en réalité, les plus parfaits bandits du monde y trouveraient peu d'occasion d'exercer leur industrie. Les voyageurs y sont rares, et ce que nous appelons les maisons bourgeoises, plus rares encore. Il y a pourtant un comte de nourrice qui place aux environs du vieux château des comtes Bozzo, la mystérieuse capitale du brigandage européen. Du temps du premier Paoli, un comte Bozzo captura sur ses terres et fit pendre le grec Nicolas Patrapoli, dont les exploits sanglants avaient épouvanté les Romagnes et qui était célèbre dans l'univers entier sous le nom de Fra Diavolo. Vous saurez que ce nom se transmettait comme celui de Pharaon en Égypte. Il y a eu 10 Fra Diavolo. Nicolas Patrapoli était en Corse pour se refaire, tout uniment, au couvert de la Merci. Un habile médecin l'y soignait. Il se peut que ce sauvage poil de terre, s'il ne sert pas de quartier général, soit au moins un lieu d'asile pour les francs-maçons du crime. Vous jugerez. Je puis vous affirmer ceci. La vieille fable d'un monastère habité par des bandits déguisés en moines était une réalité en Corse à la fin du siècle dernier. Le souvenir de ces terribles pères du couvent de la Merci est encore très vif aux environs de Sartène, et bien des gens ont vu debout ces sombres murailles derrière lesquelles se cachait une éternelle orgie. Le monastère de la Merci existait en 1802, à la lisière des bois de châtaigniers qui bordent le maquis. Ce fut un comte Bozzo, encore, qui démolit ce repère dans les premières années de l'Empire. Le dernier Fra Diavolo, père des Vestenere d'Italie et supérieur du couvent de la Merci, avait combattu les Français en bataille rangée. Il se nommait Michel Pozza, selon les uns, Bozzo, selon les autres, et fut pendu à Naples en 1806, dit-on. Ce Michel Bozzo, dernier chef des moines brigands, et le comte Bozzo, destructeur du monastère, étaient-ils parents? On ne sait. Les comtes Bozzo, comme cela se voit souvent dans les pays primitifs, étaient la tête d'une immense famille où il y avait plus de pauvres gens que de riches seigneurs. Sous la Restauration, les principales têtes de la race se dispersèrent. Il ne resta que la branche des Bozzo Corona de Bastia et la lignée de Sébastien Reni, établie aux environs de Sartène. Sébastien Reni portait le titre de chevalier. Il vivit au château avec sa femme qui était une Française. Le clan le reconnaissait pour son chef, et quand il eut une fille, l'évêque vint la tenir sur les fonds du baptême. Elle eut nom Giovanna Maria. Du couvent de la Merci, il ne restait qu'une tour demi-ruinée. À cette tour, une maison moderne s'appuyait modeste et blanche parmi les sombres ruines. De temps en temps, un homme venait habiter cette maison. Il était riche et répandait de l'argent dans le pays. Ce n'était pas un étranger. Il avait nom Bozzo. Sa femme, morte depuis longtemps déjà, était une Rehenni. Sa fille et son gendre, un Rehenni également, habitaient les communs du château. Et pourtant, malgré ses alliances connues, une atmosphère mystérieuse enveloppait cet homme qu'on nommait le père ou le père à tous. Dans ses longues et fréquentes absences, nul ne savait où il allait. L'année 1818 se montra féconde à Paris en attentats contre les personnes et les propriétés. On vit, au beau milieu d'une prospérité sans exemple, la panique s'emparait de toutes les classes de la société. Le croque-mitaine qui causait ces terreurs avait un nom déjà prononcé en semblables circonstances sous l'Empire, et même, disaient les vieillards, avant la Révolution. Il s'appelait l'habit noir. Les personnes raisonnables avaient cependant beau jeu pour évoquer en doute l'existence de ce bandit légendaire, car pour chaque crime commis, il y eut une condamnation prononcée, et si quelque chose avait dû étonner les observateurs, c'était peut-être l'extrême exactitude du bilan judiciaire qui put placer, sans exception aucune, le coupable puni en face de chaque méfait accompli. Vous connaissez le colonel Bozzo Corona, qui est maintenant presque centenaire. Est-ce que c'est l'habit noir? Demanda Étienne en riant. Ou Fra Diavolo ressuscité? Laisse parler, dit sévèrement Maurice. Monsieur Bruno lui adressa un signe d'approbation amicale. Le colonel Bozzo, reprit-il sans tenir compte de la question d'Étienne, s'en va mourant depuis quelques jours. Monsieur le baron Schwartz va perdre en lui un riche client. Et par contre, la comtesse Corona fera un bel héritage. Je vous parle de lui parce qu'il lui arriva en ce temps une aventure des plus romanesques. Quoiqu'il eût déjà de l'âge, il menait la vie de jeune homme et grand train. Il était surtout joueur. Notre jeune premier, Édouard, l'est aussi, saviez-vous cela? Mais nous y reviendrons. Bien des gens disaient cependant que sa vie de plaisir n'était qu'un masque pour cacher les efforts d'un conspirateur. La dernière partie du colonel est restée célèbre. Il perdit 7 000 louis sur un coup de carte. Assurément, il fallait que sa fortune fût énorme, car il était beau joueur et ne fit jamais attendre le paiement d'une dette d'honneur. On ne lui connaissait pas de patrimoine en France. Il parlait de biens considérables qu'il avait dans l'île de Corse. Il quitta Paris subitement après sa dernière perte et son vainqueur le suivit. Il s'agissait de vendre le domaine de Corse pour solder les 7 000 louis. Chacun savait cela. Mais le vainqueur, engoué du domaine et sans doute trahi par les cartes à son tour, fit venir traite sur traite de Paris et finit par mourir en Corse ou ailleurs. C'était un vieux garçon. Il n'en fut que cela. Seulement, Paris devint tout à coup tranquille. Ce vieux garçon était peut-être l'auteur de tous les méfaits qui désolaient la capitale. Quoi qu'il en soit, on n'eut bientôt plus assez de raillerie pour les simples qui croyaient à l'habit noir. Il était à Londres, l'habit noir. Londres n'osait plus sortir le soir malgré le luxe de ses 3 polices. Londres avait traduit le mot parisien. Il avait peur du black coat. Il avait raison, Londres, car le black coat ou l'habit noir le malmenait rudement. Les 3 polices en perdaient la tête. Vers le même temps, le colonel Bozzo va s'établir à Londres, où il se trouva tout à coup entouré de gens qui vantaient sa position et sa fortune, surtout le grand domaine de Corse. Les rumeurs publiques allèrent aussitôt leur train. Il vivait seul et menait l'existence de garçon. Il dînait au club. Sa maison se composait d'une servante italienne et d'un petit secrétaire français, sorte de groom lettré qui avait beaucoup d'intelligence. Ce petit secrétaire avait peut-être un nom comme tout le monde, mais son maître qu'il avait pris à Paris dans un atelier de serrurerie pour l'élever à ses fonctions intimes, lui donnait un de ses sobriquets doubles usités dans le compagnonnage et l'appelait Toulonnais l'amitié. À Londres, l'habit noir ou le black coat et ses myrmidons occupèrent les badauds toute une saison. Les méfaits attribués à la bande furent nombreux et du meilleur choix. Seulement, les gens raisonnables ayant quelques teintures de droit n'hésitèrent pas à nier l'existence du mystérieux chef de voleurs. Chaque crime, en effet, ici comme à Paris, se soldait devant la justice par une condamnation. À quoi bon chercher au-delà? L'habit noir était une superfétation, et l'eût-on arrêté par hasard, la loi n'avait rien à réclamer de lui. Ainsi parlaient les sages. Mais la sagesse a-t-elle le sens commun? Les fous croyaient dur comme fer à l'habit noir. Un vampire double, un monstre qui assassinait 2 fois, par le poignard d'abord, ensuite par l'échafaud. Et le colonel perdait son argent galamment, selon son habitude. Les gens qui ont quelque chose à cacher changent de nom. Le colonel n'avait garde, c'était le colonel Bozzo, à Paris, à Londres, partout. Il eut bien au club des rumeurs, sortant on ne sait d'où. Les méchantes langues se demandèrent bien les unes aux autres ceci, cela, mais le gentleman français avait été présenté selon les formes, et il était beau joueur. Son partenaire habituel était John Mason, un fils de Nabab, dont le père avait gagné des millions à empoisonner les Chinois. Ce Mason passait pour avoir 150 000 livres de revenus, 2 750 000 francs. Il venait de se marier avec une comédienne et s'en repentait, selon l'usage. Un matin, il partit en compagnie du colonel sur un navire qui faisait voile pour l'Italie. Voici le bruit qui courut dans Londres à ce sujet. John Mason, hypochondriaque, même un peu poitrinaire, voulait acquérir dans le milieu de l'Europe une résidence d'hiver. Il prétendait avoir 3 ou 4 lieux carrés, disait-on, et fonder sur ses terrains un domaine comme on n'en vit jamais. Or, l'héritage du colonel était de taille à le satisfaire, puisque, partant des montagnes, cet héritage allait rejoindre la mer à travers de vastes forêts. Le colonel n'avait plus que ce patrimoine, au dire des gens du club, qui ajoutaient que les deux compagnons de voyage allaient jouer sur place une colossale partie de backgammon dont le domaine serait en jeu. Le colonel ne reparut plus à Londres, où la légende des habits noirs tomba graduellement à l'état de conte à dormir debout. Aucune capitale européenne ne prononçait à cette époque le nom de l'habit noir, qui flamboyait, au lointain de la mythologie brigande, comme les grands noms de Cartouche, de Mandrin et de Chaderanne. Tout à coup, vers l'année 1821, les journaux le ressuscitèrent. L'habit noir était dans les prisons de Caen pour le meurtre d'une dame anglaise, l'ex-comédienne Sarah Potier, veuve de John Mason, esque. John Mason était donc mort. Je ne dis pas tout, mes jeunes maîtres, mais si vous voulez de plus amples renseignements, il y a un homme, un honnête homme, qui a vécu 15 ans de sa vie avec les gens de police et les voleurs. Monsieur Bruno s'arrêta ici pour reprendre haleine. Sa joue était très pâle et des gouttes de sueur perlaient à son front. Étienne et Maurice écoutaient avec une curiosité maladive ce récit qui semblait calculé pour éperonner l'attention en la promenant loin du point de départ. On était assurément à 100 lieues de leur père, le juge d'instruction et le commissaire de police de Caen, à 100 lieues aussi d'André Ménotte, le ciseleur du perfide Brassard. Maurice demanda « Cet homme dont vous parlez, c'est vous ?» Monsieur Bruno laissa tomber sur lui son regard indéfinissable, gris et morne, comme ces cendres sous lesquelles un incendie peut couver. « Avez-vous regardé de près, parfois » murmura-t-il. « Le pauvre malheureux qui demeure à côté de vous ? Trois pattes, comme on l'appelle ?» Il s'interrompit encore. « Eh bien ?» interrogea Étienne, cherchant toujours son drame avec la ténacité d'un chien qui a le nez sur une piste. « Ce trois pattes ?» Le Normand ne répondit point. « John Mason était bien mort, » reprit-il brusquement. « Une drôle d'histoire, j'en sais l'état. Ah ah ! Paris et Londres n'entendaient plus parler de l'habit noir, je crois bien. On ne peut être partout. L'habit noir voyageait. Et le petit secrétaire du colonel, Toulonnet l'amitié, avait grandi depuis le temps. C'était presque un jeune homme. John Mason était bien mort. Pendant un an, son notaire de Londres lui avait fait passer en Corse les sommes folles, car il était en Corse et il datait ses lèvres de Sartène. Que faisait-il à Sartène ? Nul ne l'a jamais su, au juste. Il jouait sans doute le domaine. La partie durait. La chance avait tourné. Mason perdait puisqu'il faisait venir des fonds. La comédienne eut peur d'être ruinée. Elle partit de Londres un matin et vint en Corse pour veiller à son ouvert. Quand un malheureux est prisonnier, on peut lui faire écrire et signer ce qu'on veut, n'est-ce pas ? On connaît cela au boulevard. Je crois bien que John Mason ne jouait plus au backgammon depuis longtemps. Quand sa femme va le rejoindre, que se passa-t-il ? Elle annonça par lettre la mort de son mari au notaire de Londres et demanda de l'argent à son tour, encore de l'argent. L'habit noir a manié, en sa vie, plus d'or qu'il n'en faudrait pour acheter Paris. Mais il y a autour de lui une armée et cela coûte cher. Le notaire de John Mason reçut une dernière lettre de la veuve. Elle ne ressemblait point aux autres et contenait 4 lignes seulement annonçant son évasion miraculeuse. Vous voyez bien qu'il y avait une prison. Mistress Mason n'entrait de reste dans aucun détail. Elle se bornait à dire que, libre maintenant, elle allait s'adresser à la justice. Comme elle craignait la mer, elle entreprit le voyage de Calais à travers la France. Elle fut assassinée dans une auberge de Caen. Pourquoi Caen ? Ce n'était pas sa route. On arrêta l'assassin. L'habit noir fut mis sous clé pour la première et la dernière fois de sa vie. Était-ce bien l'habit noir? Cela est de tradition à la prison de Caen. Et ce fut de son propre cachot qu'André Ménotte s'échappa 5 ou 6 ans plus tard par une fenêtre dont les barreaux étaient sciés d'avance du fait de l'habit noir. Toulonnais l'amitié s'était mis à la poursuite de la comédienne. Son maître l'avait suivi. Ils revinrent tous deux longtemps après, par une nuit noire, avec un étranger qui hérita sans doute de la chambre à coucher de Messonne. Les lettres que l'amitié mit alors à la poste de Sartène étaient adressées à Berlin. À Berlin, un riche banquier juif manquait. Beaucoup d'argent prussien arriva. Puis, le père fit un voyage en Autriche, puis encore un voyage en Russie. Il y avait de la place dans les caves de la Merché. Ce qui revenait avec le père et Toulonnais l'amitié entrait là et n'en sortait plus. En 1821, Toulonnais l'amitié était déjà un jeune homme, un beau et solide gaillard, hardi luron, effronté compère, amoureux de toutes les femmes et tuant là-bas le temps comme il pouvait. Il est bien entendu que je vous ai montré tout d'un coup le dessous des cartes. Aux environs de certaines, on était loin d'en savoir aussi long que vous. Les idées politiques qui ont fait la révolution de 1830 s'éveillaient alors dans toute l'Europe, et le souffle des sociétés secrètes de l'Italie pénétrait jusqu'en ce coin reculé. Pour tous ceux qui cherchaient des explications, le père était un missionnaire du carbonarisme. Ce qui le prouvait, c'était sa haine contre Sébastien Reni, des comtes Bozzo, le chef nominal du clan, lequel restait dévoué aux Bourbons. Sébastien Reni mourut au château en cette année 1821, et sa veuve, une pieuse femme, ne pouvait tarder à le rejoindre dans la tombe, car des médecins l'avaient condamné. Leur jeune fille, 12 anges de beauté, de grâce et de bonté, avait quitté, pour leur donner des soins, le couvent de Sartène, où elle achevait son éducation. Giovanna Maria Reni allait avoir 16 ans. Sa tante, la supérieure des Bernardines de Sartène, l'avait élevée comme une grande dame qu'elle devait être. Elle était destinée à l'un de ses cousins de Bastia qui tenait le haut-bout parmi la jeunesse insulaire. Un soir, revenant de l'église, elle fut attaquée non loin des ruines par ce donjon en herbe, Toulonnais l'amitié. Celui-là ne respectait rien. Un jeune garçon de la ville, armurier ciseleur de son état, se battit pour elle et fit un mauvais parti au séducteur. Giovanna Maria se souvint de lui. Toulonnais ne l'oublia pas non plus. Saluez, messieurs les auteurs. Vos héros entrent en scène. L'armurier ciseleur de Sartène avait nom André Ménotte, et Giovanna Maria, ce bel ange, est votre comtesse Olympe Verdier.